Ce magazine estival est produit en partenariat avec le Musée de l'eau à Pont-en-Royans,
le Grand Séchoir, maison du Pays Lannois à Vinay,
la maison-musée de Rochechinard,
le mémorial de la Résistance à Vassieux-en-Vercors,
le musée de la Préhistoire du Vercors et le musée de la Résistance à Vassieux,
le jardin des fontaines pétrifiantes à La Saône,
la grotte de Thaïs et le bateau à roues à Saint-Nazaire-en-Royans,
la grotte de Chourange,
le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye,
le festival des chapelles en Royan-Vercors
et l'office de tourisme Vercordrome.
Bienvenue dans le magazine Estival, votre magazine de l'été en Royan-Vercors et dans le sud Grésivaudan. À retrouver sur les ondes de Radio Royan-Vercors sur 93 FM et sur notre site internet radioroyan.fr. Tout l'été, en effet, Radio Royan-Vercors bouscule ses programmes et vous propose cette émission estivale diffusée à 9h, à midi et à 18h. Au programme, les bons plans sortis, des chroniques immersives dans des lieux à découvrir, des interviews et des reportages. Tout pour partager avec vous les joies d'un été sur le territoire.
Que faire aujourd'hui sur le territoire ? Pour vous inspirer, nous vous proposons un focus sur les activités et ateliers du jour. C'est la suggestion de la rédaction.
On commence ce tour d'horizon des différentes activités qui vous sont proposées aujourd'hui dans le Royan, le Vercors et le Sud Grésivaudan. Du côté de Saint-Jean-en-Royan, en particulier à l'Arsolite, le centre d'art de Saint-Jean-en-Royan, qui vous propose, comme plusieurs fois cet été, un atelier de médiation. Il s'agit d'un atelier de médiation artistique pour créer un paysage de montagne via la technique du pointillisme, qui est une technique donc artistique, à la manière de Fraboni, Alain Fraboni, qui expose en ce moment d'ailleurs à l'Arsolite. Il s'agit de faire plein de petites taches et de petits points de couleur donc pour représenter une montagne. Tout ça, ça va avoir lieu donc de 14h30 à 16h, donc cet après-midi. C'est sur inscription, c'est toujours mieux de s'inscrire au préalable, donc en contactant l'Arsolite soit par mail, soit par téléphone. Il s'agit d'un atelier tout public à partir de 5 ans et c'est 10€ par personne. On continue avec un autre temps fort, cette fois-ci du côté du Vercors, du côté de Vassieux en Vercors, au musée de la Préhistoire. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, et ça va durer jusqu'à demain, il y a une grande fête de la Préhistoire donc au musée. Ça s'appelle Silex et compagnie. Il s'agit d'une grande quantité d'ateliers et de plusieurs types de démonstrations qui vont être présentes donc toute la journée, notamment des ateliers culinaires, de tissage, des techniques de filage, de maquillage, et tout ça, c'est en lien avec le thème de la Préhistoire. Et pour l'occasion, donc, on écoute un extrait d'une interview que j'ai réalisée en compagnie de Loïc Mathieu, qui est médiateur scientifique au musée de la Préhistoire. On écoute.
Pour la deuxième année consécutive, le musée va proposer le mercredi 6 août et le jeudi 7 août la fête de la Préhistoire, qu'on appelle nous ici Silex et compagnie, où nous convions des intervenants également extérieurs. Donc il y a des animations proposées par les médiateurs et médiatrices du musée. Donc cette année, ça sera les parures et puis les tyropropulseurs, le maquillage. Et puis nous convions également, alors cette année nous aurons des ateliers sur l'archéozoologie, nous aurons des ateliers sur le tressage en préhistoire, une petite balade suivie d'un petit atelier culinaire, végétal bien entendu, et puis des contes. Un conteur, Thierry Abba, viendra du Nord-Vercors pour raconter plusieurs contes destinés aux enfants et aux grands qui viendront participer à la fête. Et du coup, tous ces ateliers et ces animations sont proposés chaque jour au prix d'entrée d'une visite du musée. Par contre, certains ateliers nécessitent une réservation. Donc il faudra contacter le musée pour pouvoir participer à certains de ces ateliers. Le programme général est affiché sur le site internet du musée et dans les offices de tourisme, mais pour les réservations et les ateliers sur réservation, il est préférable de contacter le musée au 04 75 48 27 81 ou de nous envoyer un mail à info@préhistoire-du-6-vercors.fr.
Voilà, c'était Loïc Mathieu pour cette fête de la préhistoire, cette fête Silex et compagnie, qui commence donc aujourd'hui, mercredi 6 août, et qui dure jusqu'à demain, jeudi 7 août. Vous pouvez retrouver évidemment tout le programme en ligne sur le site internet du musée de la préhistoire du Vercors, préhistoire-vercors.fr. Autre proposition pour ce mercredi 6 août, il s'agit d'une visite théâtralisée de Pont-en-Royans. Une visite qui s'appelle 1900 en Pont-en-Royans, donc retour dans les années 1900, lorsque la nuit tombe et que les réverbères s'éclairaient petit à petit grâce à la fée électricité. Vous serez en compagnie de Joseph qui est contrôleur des réverbères et qui vous emmène avec lui dans sa tournée. Vous deviendrez son assistant et découvrirez l'histoire et la vie du village en 1900. Il s'agit d'une visite théâtralisée donc du village qui dure de 1h15 à 1h30. C'est pour 30 personnes maximum et donc le mieux est de réserver votre place par avance sur le site de l'Office de tourisme de Saint-Marcellin vers Corisère. Le lieu de rendez-vous, c'est devant le restaurant du Mont-Barret, donc c'est rue du Maire, la Pont-en-Royans. Et donc pour avoir plus d'informations, il faut aller sur le site de l'Office de tourisme Saint-Marcellin vers Corisère. Voilà pour les activités du jour.
Reportage, plateau en public, visite sonore, les micros de Radio Royan Vercors sont de sortie. C'est l'heure de partir à la découverte du territoire.
Radio Royan Vercors ce matin est en compagnie de Pauline Dalmé, qui est autrice et illustratrice du roman graphique « Il ne reste que le mauve ». Qui vient de paraître le 13 septembre dernier aux éditions Pantera. Bonjour Pauline.
Bonjour Charlène.
Nous sommes ravis de t'accueillir et donc justement si on t'a invité sur les ondes de Radio Royan Vercors, c'est parce que ton roman graphique se passe dans le Vercors. Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus durant cette interview. Donc pour commencer, moi je voulais te demander de nous résumer ou en tout cas de nous parler de cette histoire donc qui se passe dans Il ne reste que le mauve, pour que nos auditeurs et auditrices aient un petit avant-goût de ce qu'il y a à l'intérieur de ce roman graphique.
Alors, il s'agit de Rose qui a essayé de suivre les consignes que la société lui a demandé de suivre. Et en fait, elle se rend compte que la case qu'on lui a assignée lui convient pas tout à fait. Donc, elle se sent de plus en plus envahie par des choses qui ne la concerne pas, et donc elle ne voit pas d'autre possibilité que de s'évader. Elle sort de sa case, elle s'évade, et elle ne sait pas où elle veut atterrir. Au bout d'un parcours d'équilibriste, elle se rend compte qu'elle a atterri sur un territoire qui lui donne envie de s'arrêter, et ce territoire, c'est le Vercors. Elle va du coup, quelque part, commencer une transformation avec son rapport à la nature, avec le vivant. Et elle va aller passer beaucoup de temps en forêt, dans les magnifiques forêts du Vercors, pour se sentir apaisée et en lieu sûr. Et donc, c'est dans ce lieu sûr qu'elle va du coup retracer le fil de ses pensées, faire un peu le point sur tout ce qui lui est arrivé, comment elle est arrivée là, pourquoi elle a accepté des choses qu'elle ne voulait pas accepter et où est-ce qu'elle a envie d'aller maintenant.
Et juste avant, donc, tu me disais que ça fait écho à ton parcours personnel, donc cette découverte du territoire, cette rencontre avec les éléments, avec la nature et puis aussi à une prise de conscience intérieure. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots ?
Donc en fait, moi je suis lyonnaise voilà, de naissance. J'ai vécu à Lyon du coup jusqu'à mes 38 ans. Donc je suis architecte, diplômée de l'École nationale de Lyon. Et j'ai été gérante de ma société d'architecture pendant plus de 12 ans. Donc j'étais dans une vie très remplie, que je regrette pas du tout, qui était hyper stimulante intellectuellement. J'avais besoin de régler beaucoup de choses, je pense, quant à ma position aussi de femme dans la société, de mère. C'était des années très riches, mais l'impression vraiment que tout se remplissait et rien ne se vidait. Et donc, c'était beaucoup trop. Et j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a eu aussi une remise en question en même temps que moi. Donc, on a décidé qu'on voulait partir en voyage avec nos deux filles pour prendre le temps de voir si c'était toujours OK pour nous d'avoir cette vie-là. Et donc, pas de suspense, on n'était pas OK. Donc, en rentrant de voyage, on a décidé de changer de vie pour de vrai. Et on est parti avec un très joli vide dans nos vies qui laissait la possibilité aux opportunités de venir s'installer. Et donc, le Vercors a été presque un hasard. Hein. Donc, c'est un peu la même chose que mon personnage. Par contre, une fois qu'on l'a trouvé, ça a été une évidence et on n'en a plus jamais changé. Donc, on s'est installé à Villard-de-Lans. Voilà. Et donc, oui, ça a été ce voyage et ce déménagement, vraiment une prise de conscience écologique profonde, sincère, avec tout d'un coup... une révélation de tout ce vivant autour de moi. Moi, quand j'étais petite, les animaux, ils n'existaient pas pour moi, en fait. Alors, je faisais de la montagne déjà, mais on voyait des marmottes, des bouquetins, c'était super. Mais c'était un monde parallèle, c'était pas mon monde. Et là, vraiment, l'impression de pouvoir... je suis dans le même monde que les animaux, que le vivant, que la nature. Et ça a été hyper rassurant pour moi de me repositionner en tant qu'être humain dans l'univers et pas en tant qu'ultra humain dans une ultra société ultra remplie. Voilà.
Et ça, on le ressent bien justement dans les différentes planches qu'on peut découvrir donc dans ton roman graphique, où on sent que Rose, donc ce personnage qu'on va suivre dans sa découverte, dans son exploration et ses différentes prises de conscience... Elle fait partie de ces forêts que tu représentes et on va pouvoir s'attarder aussi sur les illustrations qui sont vraiment sublimes. On sent qu'il y a du toucher, il y a un très beau jeu aussi sur les couleurs, les lumières. Il y a une unité qui se crée entre elle et le paysage. Moi, j'avais aussi envie de te demander comment est-ce que tu en es arrivée à faire ces peintures, à représenter la forêt. Donc ça se passe en automne. On est dans ces belles forêts avec des couleurs flamboyantes et... des lumières chaudes, rasantes. Comment est-ce que tu en es arrivée à faire ces représentations ?
Mon rapport à la peinture... Je suis une artiste. J'arrive à le dire maintenant. Je crois que l'architecture a nourri mon côté artistique pendant de longues années et que finalement, maintenant, mon côté artiste n'était plus ça lui suffisait plus. Il y a eu une lassitude avec les problématiques d'architecture. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, plus qu'architecte, j'étais artiste et que la peinture a toujours fait partie de ma vie. Et je crois que ça a toujours été également une recherche de sensitivité. Voilà, donc c'est ce que tu dis. Il y a toujours quelque chose, je suis très très concentrée pour arriver à représenter quelque chose qui pourrait, oui, se toucher. Je crois qu'on arrive à sentir les odeurs dans mes peintures, de la mousse. Il y a quelque chose de très sensitif. Une révélation artistique qui était en moi, mais qui a été vraiment révélée du coup par une aquarelliste qui s'appelle Marion Rivolier. J'ai eu la chance de faire un stage avec elle et qui m'a appris à déposer des couleurs sur un papier et de pas chercher à dessiner, de pas chercher à faire beau, de pas chercher à représenter quelque chose qui rassurerait celui qui va regarder et d'être vraiment dans un moment de création et de... d'être connecté avec son environnement, donc ça demande de la place, on a un corps qui bouge, on a un choix de la couleur hyper précis, arriver en fait à se dire que l'eau est presque jamais bleue, et d'arrêter de la peindre en bleu, de se dire qu'une ombre, je n'utilise, le noir c'est interdit dans mes peintures, donc l'ombre est jamais noire, l'ombre elle a toutes les couleurs sauf le noir, et voilà, tout ça travailler, je crois qu'il y a quelque chose... de très lié au corps également dans ma façon de peindre et de ce que je veux représenter. Et donc l'aquarelle, c'est un média qui m'intéresse beaucoup, mais qui est plus de l'ordre de la méditation, je dirais, voilà, je vais faire un travail in situ, toujours sans crayon, sans gomme, je dépose des couleurs sur un papier. Et donc le travail de la gouache et de ce livre, c'est un peu différent parce que j'étais en atelier, mais j'avais peint toutes ces forêts à l'aquarelle, sur place, et j'avais quelque part pris les énergies du lieu, les couleurs, et vraiment je passais aussi beaucoup de temps à faire des nuanciers, trouver le bon nuancier, et ça, c'est, voilà, c'est un travail très précis pour moi. Et donc, sur les nuanciers, dans ce livre, il y a vraiment, j'ai choisi 5 nuanciers et qui se sont tous reliés les uns aux autres, mais qui vont faire qu'il y a cette sensation d'évolution et de temps qui passe. Finalement, au début, on est dans un temps un peu plus long, mais après, c'est juste quelques heures et il se passe énormément de choses en quelques heures. Et à l'automne, en fin de journée, il se passe énormément de choses en quelques heures. Et les forêts, alors moi, c'est vraiment un lieu, en effet, qui me remplit de joie. Et je crois que la joie, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie aussi qu'on sente dans ce livre, même s'il traite de choses qui sont des fois difficiles, mais qui sont... Il y a quand même énormément de joie. Et moi, voilà, en forêt, je suis, même quand il y a de la brume, quand il pleut, je trouve que c'est extraordinaire comme lieu. Et donc, j'avais envie que ce personnage puisse voilà, arriver à exprimer ce lieu sûr en forêt. Et donc, ce livre-là, sur le démarrage de l'histoire, en effet, il fait écho à une randonnée que j'ai faite seule. Mine de rien, pour moi, une femme seule dans la forêt, on ne m'avait pas forcément appris à le faire. Alors les gens qui sont nés là, les grands sportifs, eux, ils n'ont pas de problème à le faire. Moi, c'était pas mon cas. Et donc, j'ai quand même, quand je me suis installée dans le Vercors, petit à petit, apprivoisé doucement chaque petit lieu. J'allais toujours un peu plus loin, mais pas trop parce que j'avais peur. Et puis un jour, je suis partie marcher en fin de journée à l'automne et c'était absolument flamboyant et fabuleux. Et en fait, sans m'en rendre compte, quand je suis arrivée au niveau de la cabane de Roibon, sous les arêtes du Gerbier, je me suis retournée et il y avait une mer de nuages qui m'avait suivie et dont je ne m'étais pas rendue compte. Voilà. Et là, j'ai vécu un moment vraiment suspendu, un instant de grâce comme un artiste rêve de ressentir, puisqu'en fait, cet instant-là, il a nourri et il continue de nourrir ma pratique artistique. Donc c'était voilà, il y a 2 ans environ, et depuis, je suis nourrie par cet instant-là. Voilà.
Et donc là, t'es venue avec une pochette sous le bras dans les studios de Radio Royan, avec tes peintures. Et effectivement, quand on voit les textures et même la taille en fait des planches, parce qu'elles sont beaucoup plus grandes que le format de ton roman graphique, il y a encore une autre rencontre qui se crée avec ces peintures. Et donc tu vas avoir l'occasion de les exposer, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rapport à l'exposition et à l'édition ? J'imagine que c'est deux manières de présenter ton travail qui sont assez différentes. C'est quoi ton rapport à tout ça, toi ?
Alors, tu as utilisé un mot qui est vachement important pour moi, c'est la rencontre. Et je crois que ce livre, c'est ça, c'est une histoire de rencontre et que j'ai envie de faire... j'ai envie que ce livre me fasse rencontrer des gens, j'ai envie que ce livre rencontre des gens, j'ai envie qu'on se rencontre tous et qu'on en parle. Même si ça part d'une histoire, évidemment, qui est la mienne, je crois que vraiment, j'ai voulu que ce soit quelque chose d'universel. Enfin non, c'est pas encore universel, faut pas rêver. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent en ce moment, j'espère de plus en plus, cette joie de se dire que, en fait, la nature, c'est la vie, et c'est là, et elle est encore là, et que ça rend heureux, quoi. Et qu'il faut la protéger, du coup, il faut en prendre soin. Alors du coup, oui, une rencontre avec deux éditrices, donc les éditions Pantera qui me font l'honneur de m'éditer sur un premier ouvrage. Donc c'est une grosse prise de risque pour elles, parce que mon livre est un peu hybride, on va pas se cacher. Il répond pas du tout, donc c'est rangé dans la BD adulte, mais il a pas du tout les codes de la BD. Moi j'appelais ça une poésie graphique. En tout cas, elles ont pris le pari de me faire confiance et elles m'ont accompagnée. Donc j'aurais envoyé presque un projet de livre. Je peux pas dire de fini, puisque vu le boulot qu'on a fait derrière, j'ai cru que c'était fini. Mais que nenni, puisque Céline et Marianne ont vraiment fait le travail de tirer mon projet vers le haut, avec un énorme travail sur le texte qui était absolument passionnant, puisque moi, il y a plein de choses que, en plus, en vivant ici, qui sont évidentes, et quand je les abordais avec subtilité, j'étais persuadée que tout le monde avait compris, mais alors elles m'ont dit que pas du tout. Donc ça, c'était très intéressant, et en fait, c'était vraiment, il y a un propos, oui, de reconnexion avec le vivant, lâcher cette puissance, de laisser les choses se faire, que je veux porter, et donc elles m'ont aidée à ce que mon propos soit clair, et ça, c'était vraiment chouette. Voilà, les éditions Pantera, c'est une petite maison d'édition qui a vraiment des livres remarquables. Je vous invite à aller voir leur collection. Elles ont une collection inclusive, elles ont une collection sur des documentaires sur la nature, sur elles font des portraits d'artisans et d'artisanes. Voilà, c'est vraiment une maison d'édition qui met aussi un point d'honneur à avoir des livres écologiques, à bien traiter les auteurs. On a signé un contrat d'auteur qui est hyper respectueux de mon travail, plus que dans la plupart des maisons d'édition, elles m'ont expliqué. Voilà, donc c'était une super aventure. Donc oui, ce livre est un peu à elle également. Et ça me va parfaitement bien, elle le mérite largement. Et après, pour les peintures, il va falloir que je les vende. C'est hyper dur pour moi. Je suis tellement attachée à ces peintures. Alors, j'y suis attachée, mais j'ai zéro peinture de moi chez moi. Hein. Je suis pas du tout du genre à aller les regarder et tout. Mais oui, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir la librairie des modernes qui m'a proposé de faire une exposition d'un mois où je vais pouvoir exposer mes peintures, les peintures du livre et quelques autres également. Donc je suis très heureuse, je suis très touchée aussi qu'elle me fasse confiance. En fait, tout ça est un peu dingue hein, pour moi, puisque c'est le début, et je crois que ça fait partie des belles surprises qui ont pu avoir lieu, parce que j'avais fait du vide avant, et que c'est vachement important de pas oublier de laisser la place à ça, et de pouvoir tout d'un coup prendre tout ce temps-là pour s'occuper de ce livre, de cette expo, de mes peintures. Voilà, c'est super chouette, parce que je me dis qu'il y a 6-7 ans de ça, juste un retard d'un artisan, et c'était la catastrophe, tout était grave, tout était important, donc... Voilà, c'est plus ma vie et ça me va de l'avoir eu avant. Hein. C'est pas du tout, je me suis pas trompée. J'ai pas l'impression d'avoir tout changé. J'ai l'impression d'avoir continué mon chemin et que maintenant, voilà, c'est cohérent et voilà.
On ressent cette générosité et cette forme de partage dans ton ouvrage et même enfin dans ta démarche. Et tu me disais que donc c'était important pour toi aussi de faire vivre ce projet éditorial dans le territoire que tu habites, donc dans le Vercors, même aux alentours, aux Villeportes. Là, tu parlais donc de la librairie des modernes qui se trouve à Grenoble. On parle des Espelines où tu vas venir faire donc cette rencontre auteur le dimanche 20 octobre. Et tu me disais aussi que tu vas aller à Romans, tu vas essayer vraiment d'aller à la rencontre aussi de tes lecteurs, de tes lectrices. T'as eu des retours, des premiers retours aussi, des libraires peut-être, vu que ton livre est paru le 13 septembre.
Ouais, quelle émotion, franchement, un livre qui sort, c'est fou quoi. Puis alors moi, les librairies, c'est mes endroits préférés au monde. Et donc là, tout d'un coup, quand on va dans une librairie et qu'on voit que son livre est là, c'est assez incroyable. Je crois que je suis aussi en recherche de légitimité, clairement. Et du coup, bah, donc évidemment que les éditions Pantera, en m'offrant la possibilité d'éditer mon premier ouvrage, ça me fait gagner beaucoup de temps par rapport à ma légitimité. Mais aussi cette rencontre, en effet, avec les acteurs du territoire, me permet de me confronter aux émotions que crée mon travail. Et je crois que ça d'aller toucher quelque chose dans le regard ou dans le cœur des gens, c'est quelque chose qui, moi, me nourrit. Et donc, la première, en effet, le premier retour professionnel que j'ai eu, c'est la librairie des Cordeliers à Romans. Donc, depuis, j'en ai eu d'autres, mais celui-là m'a particulièrement touchée. Déjà parce que c'est un homme qui m'a appelé, c'est Alan, et il m'a dit, moi, j'ai lu ton livre une première fois, et puis après, je l'ai lu à ma femme. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper touchant, parce que je sens que la poésie de mes mots a été lue à voix haute. Ça, c'est quelque chose, parce que c'est des mots que j'ai quand même choisis tous très spécifiquement pour leur musique, pour voilà, donc ça, c'était chouette. Et en fait, il m'a tout d'un coup expliqué mon livre. Il me connaît pas du tout et il m'a expliqué mon livre et il a tout vu. Et ça, pour moi, c'était magique de me dire, oh, j'avais l'impression que si ça se trouve, c'est être à côté de la plaque, que les gens allaient pas comprendre, pas voir. Et en fait, il a tout compris. Il a vu la joie, il a vu la transformation, il a vu le débordement et il a été hyper touché par ce livre-là. Donc du coup, il me propose également, en effet, une rencontre, c'est en novembre, au Cordeliers. Donc il m'accueille, je vais pouvoir... Et en fait, dans chaque librairie où je vais aller faire des dédicaces ou des rencontres, j'ai évidemment l'intention d'apporter mes peintures pour faire cette rencontre aussi et que les gens puissent les voir de près, les regarder. C'est très émouvant et c'est très surprenant. Voilà, c'est une belle surprise.
Et donc ton roman graphique, on rappelle son titre, Il ne reste que le mauve. Moi, je me posais la question de son titre. Bien évidemment, on ne va pas spoiler le contenu de ton roman et la fin, notamment. Mais est-ce que tu pourrais nous parler de ce titre, Il ne reste que le mauve ?
Alors, c'est un titre qui est arrivé juste avant qu'on finisse ce livre, puisqu'il avait eu deux autres titres. Moi, je l'avais appelé La Grâce, pour commencer. Et puis après, on l'a appelé Vivante. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des titres qui étaient déjà très utilisés. Et puis, voilà, finalement, ça ne nous allait pas. Et donc, on a réfléchi. Et c'est un soir, avec mon mari, on a trouvé... donc, c'est une phrase qui fait partie de mon texte. Mais au-delà de ça, vous verrez, c'est l'idée d'aller à l'essentiel de la simplicité. Ce que je parlais sur le fait de se vider et d'aller vers quelque chose le plus épuré possible et le plus simple possible. Et du coup, le plus pur et beau.
Et donc, le mauve, il va falloir lire et découvrir donc ce roman graphique pour en savoir plus. Et donc, on peut dire que ton arrivée dans le Vercors a été le début de ce nouveau projet artistique. Est-ce que c'était un projet artistique unique ou est-ce que tu penses que tu vas poursuivre ce travail de l'édition, de la narration et de la peinture qui sont en fait des modes d'expression artistique que là, toi, tu rejoins puisque tu es autrice et en même temps, tu es illustratrice. Est-ce que tu penses que tu vas continuer ce travail-là ? Est-ce que c'était une première pierre de quelque chose, d'une nouvelle construction ?
Alors, j'ai déjà un autre projet en cours, d'album jeunesse plutôt, cette fois, puisque ça en est pas un. Un album jeunesse que j'ai écrit et que je peins. Alors, j'ai pas terminé du tout. Mais donc, j'ai encore ça, cette envie. Et à nouveau, c'est l'histoire d'une petite fille qui déteste l'été. Elle trouve qu'il fait trop bleu, qu'il fait trop chaud. La lumière, elle est moche. Voilà, donc elle boude. Tout le monde s'éclate dans ses vacances d'été et elle boude. Jusqu'au moment où un nuage arrive et du coup elle reprend vie avec ce nuage et avec la nature qui tout d'un coup se réveille et qui se sort de cette canicule insupportable et voilà, et elle va partir à la rencontre encore une fois de cet orage et vivre voilà. Donc c'est encore un livre, celui-là en tout cas, qui parle du Vercors et de ses orages cette fois et ce lien avec la nature et voilà, de dire pour moi maintenant les beaux jours c'est quand il pleut hein, c'est quand on a cette brume, on a eu des années où on a eu tellement chaud. Donc c'est aussi ça, ça parle encore du climat, mais dans les yeux d'un enfant plutôt. Donc j'ai ce travail-là. Et après j'ai aussi, je ne sais pas si tu connais l'atelier du Presse Citron.
Ah non, pas du tout.
Et alors ça c'est quelque chose dont j'ai très envie de parler, de profiter de cette interview. C'est en fait quatre jeunes femmes de Lens-en-Vercors qui ont récupéré un local juste derrière l'église où elles ont fait une partie coworking avec l'association Utopique, donc qui est l'association qui gère tous les coworking sur le plateau, et elles ont fait un atelier artistique partagé. Et à l'avant de ça, il y a une boutique où on vend, puisque je fais partie de l'équipe, nos illustrations, des reproductions d'illustrations. On est 10 illustrateurices à faire partie de cette aventure-là. Il y a même une potière, on a un photographe, on a des graveuses, donc elles font de la gravure, elles font de la linogravure, de la sérigraphie, il y a de l'aquarelle. Voilà, donc on est tous vivants sur le plateau et donc c'est vraiment un lieu qui est fabuleux, donc il faut vraiment aller voir. On a des horaires d'ouverture les samedis matin, samedi fin de journée, dimanche fin de journée. Et pendant les vacances scolaires, beaucoup plus. Donc vous pouvez aller sur le site et voir les horaires. C'est vraiment une boutique super chouette.
Et ça m'amène à la question des lieux et des réseaux un peu d'artistes, de créateurs, créatrices qu'il y a sur le Vercors. C'est pas quelque chose auquel on pense souvent quand on vient dans un milieu rural, montagnard, qui a un noyau artistique en fait qui peut vivre ici. Pour toi, c'est important d'avoir un espace aussi où vous vous retrouvez en tant qu'artiste?
J'ai passé quand même beaucoup de temps caché dans mon atelier à dire que je faisais de l'architecture alors que j'en faisais déjà plus, je faisais que de la peinture. Ça a été difficile pour moi, donc c'est ce que je te disais en fait, les artistes on a clairement ce paradoxe de parler de nous tout en étant hyper pudique. Voilà, donc il y a une grande pudeur qui du coup m'a demandé du temps avant d'oser dire. Déjà. Et alors, faut pas rêver, hein. Clairement, quand on dit qu'on est architecte, ça te pose un décor social dont je me fiche moi éperdument, mais qui est Ah, c'est reposant, hein, quand tu sors, tu dis que t'es architecte, hop, pas d'autres questions, c'est réglé. Alors que quand on dit qu'on est artiste-auteur, alors vraiment, j'ai assisté à des questions, tout de suite, on me dit comme si c'était un caprice. Alors que pour moi, je ne pouvais pas faire ce choix si j'avais pas cette maturité-là. Et on nous renvoie à vraiment une infantilisation de l'artiste. Ça, c'est dur, ça m'a pris du temps, du coup. Maintenant, c'est bon, je suis OK avec ça et... j'ai plus de problème à l'assumer, mais voilà. Après, quand j'ai réussi à être un peu plus au clair avec le fait que c'était ma nouvelle vie, c'est vraiment par le Presse Citron que j'ai osé sortir et dire, bah voilà, j'ai vu que vous aviez un atelier. En plus, elles sont vraiment cool. Alors, il y a deux autres archis qui ne font plus d'archis. C'est une maladie courante dans notre profession.
Des déserteurs.
Ouais, alors après, je dirais pas qu'on est des déserteurs. J'ai réfléchi, en fait, c'est qu'on est des artistes. Et que du coup, au bout d'un moment, on a besoin de se nourrir d'autres choses aussi. Parce que l'architecture, c'est un métier qui est tellement entier, complet, que quand on fait de l'architecture, on fait que de l'architecture. Voilà, je pense que c'est plus ça... Oui, et il y a un réseau d'artistes sur le plateau qui est hyper intéressant et très riche. Et il y a quand même des choses qui se mettent en place. De plus en plus, il y a plein d'assos. Et oui, c'est important qu'on se mette en lien les uns les autres. Autrement mais autre aussi, c'est très très riche, hein, culturellement. Donc, on est très riche dans le milieu associatif. Au niveau politique, c'est moins... On a, voilà, les subventions ne se bousculent pas pour nous accompagner, nous aider à vivre nos professions d'artiste-auteur.
Et est-ce que tu as des réseaux sociaux ou des endroits, un site internet où on peut suivre peut-être tes actualités, tes projets ?
Alors oui, je fais partie de ceux qui détestent les réseaux sociaux mais qui s'en servent. Donc j'ai un compte Instagram vraiment que je tiens pour présenter mes peintures, ça c'est sûr, mais aussi continuer sur cette histoire de regard. Donc je publie pas mal de stories, mais toujours liées à comment regarder les choses un peu différemment, la nature. Donc j'ai mon compte, c'est je crois Pauline Dalmet, ça marche. J'ai un site où je vends mes illustrations, donc que vous trouvez sur le compte Instagram en bio, vous avez le site où vous pouvez aller voir les illustrations, les reproductions d'illustrations que je mets en vente. Voilà.
Et ben merci beaucoup Pauline pour ce temps que tu as pris pour nous parler donc de ton projet éditorial et de la sortie très récente de ton roman graphique Il ne reste que le mauve.
Et ben merci à toi Charlène, c'était vraiment un grand plaisir.
Vous écoutez le magazine Estival, votre magazine de l'été en Royan-Vercors et dans le sud Grésivaudan. Une émission à retrouver sur notre antenne à 9h, à midi et à 18h du lundi au vendredi, ainsi que sur notre site internet radioroyan.fr.
Ce magazine estival est produit en partenariat avec le Musée de l'eau à Pont-en-Royan,
le Grand Séchoir, maison du Pays Lannois à Vinay,
la maison-musée de Rochechinard,
le mémorial de la Résistance à Vassieux-en-Vercors,
le musée de la Préhistoire du Vercors et le musée de la Résistance à Vassieux,
le jardin des fontaines pétrifiantes à La Saône,
la grotte de Thaïs et le bateau à roues à Saint-Nazaire-en-Royan,
la grotte de Chourange,
le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye,
le festival des chapelles en Royan-Vercors
et l'office de tourisme Vercordrome. Temps fort et rendez-vous incontournable, c'est l'heure de l'agenda. Une sélection non exhaustive de sorties sur le territoire du Royan-Vercors et Sud Grésivaudan, concoctée par la rédaction.
Pour plus de propositions, n'hésitez pas à consulter l'agenda en ligne des offices de tourisme Vercors-Drôme et Saint-Marcelin Vercors-Isère.
On commence cet agenda du mercredi 6 août avec les 16e rencontres cinématographiques de Saint-Julien en Vercors. Il s'agit du festival Caméra en campagne qui a commencé le 3 août et qui va durer jusqu'au 8 août et dont la thématique, on le rappelle, est celle de la fête. La fête au village donc de Saint-Julien en Vercors. Il s'agit d'un festival qui vous propose chaque jour plusieurs projections cinéma. Donc il y a du cinéma d'animation, du documentaire et également des ateliers qui vous sont proposés chaque jour. Et aujourd'hui, on commence à 10h avec une matinée qui est proposée pour les jeunes, pour les enfants. C'est une plongée dans l'univers de Tim Burton, donc ce réalisateur assez connu, avec la projection du film Des Noces Funèbres. C'est conseillé à partir de 7 ans, puisque ça pourrait effrayer les plus jeunes. C'est du cinéma d'animation, donc ça dure 1h15 et ce sera évidemment proposé en version française. Ça continue l'après-midi, donc avec à 15h le film Nos de Stefan Strecker, qui est un réalisateur belgo-paquis. On continue l'après-midi à 15h avec la projection du film Nos, qui a été réalisé par Stefan Strecker en 2016, autour du personnage de Zahira, qui est une jeune fille belge d'origine pakistanaise, qui trace sa route entre ces deux mondes jusqu'au jour où sa famille lui impose un mariage traditionnel. Prise entre les exigences de ses parents, son mode de vie à l'occidental et ses aspirations à la liberté, elle compte bien sur l'aide de son grand frère. Voilà pour ce film qui dure 1h38 et qui aura lieu donc à 15h. Et puis on continue à 17h avec le film « La vie est un miracle » par Emir Kusturica de 2004. C'est un film serbe qui dure 2h30. Et donc là, c'est retour en 1992 dans la République yougoslave de Bosnie avec Luka qui est ingénieur en charge de la ligne des chemins de fer qui doit transformer cette magnifique région en un lieu touristique. Il ne voit pas venir la guerre qui va venir ébranler son monde et disloquer sa famille. Il ne s'agit donc pas uniquement de sujets tragiques, mais également de la folie gaie et débridée du monde balkanique et de Kusturica. Voilà pour ce film qui sera donc projeté à 17h. Et puis, dernier film pour aujourd'hui, c'est à 21h30 avec « Quelques messieurs trop tranquilles » de Georges Lautner qui a été réalisé donc en 1973. Cette fois-ci, ça dure 1h36. Et donc, si vous ne connaissez pas encore ce film, c'est à Loubressac que ça se passe, où l'on s'ennuie et où l'on s'en va, que débarquent des hippies et puis des gangsters. Donc toutes ces projections vont avoir lieu à la Grange Marcon à Saint-Julien en Vercors. Pour en savoir plus donc pour cette programmation du festival Caméra en Campagne, vous pouvez vous rendre sur leur site internet et sur leur page Facebook. Il y a tout le programme et tous les synopsis ainsi que les bandes annonces de ces films qui vous sont proposés. On poursuit cet agenda avec deux concerts cette fois-ci du côté de Saint-Jean-en-Royan dans le cadre des Mercredis sur Place, qui est une programmation que la ville de Saint-Jean met en place. Il s'agit ce soir donc du concert des Mécanos qui va avoir lieu donc place de la Fraternité. C'est un concert qui est gratuit et qui va avoir lieu à 21h. Et donc il s'agit les Mécanos de 10 chanteurs et percussionnistes qui bricolent les répertoires populaires chantés dans l'imaginaire de leur atelier mécanique. C'est notamment avec de la polyphonie occitane et donc comme je le disais, des percussions, des tambours et donc ces chants en français et en occitan qui racontent les luttes passées et actuelles. Ils auront sélectionné donc 10 titres qui sont inspirés des musiques traditionnelles pour écrire une histoire populaire faite de complaintes, de révoltes, de danse et d'espoir. Ils étaient venus à Vassieux il y a quelques mois. Donc là, ils sont de retour à Saint-Jean-en-Royan. Et l'association partenaire donc, de ce spectacle, c'est l'association de l'école Jeanne d'Arc qui va vous proposer une buvette et des crêpes sur place. Et pour l'occasion, donc, on vous propose d'écouter un extrait d'un des morceaux des Mécanos. On écoute.
Ce matin dans notre atelier, la mine est basse et l'œil brillant. Là-haut, chemin du brûlé, ils ont tué des innocents.
Ils ont tué des innocents.
Il faudrait reprendre le travail, comme si rien ne s'était passé. Je crois n'en être plus capable. Ils ont tué des ouvriers.
Ils ont tué des ouvriers. Des mots matinés les varaillent pas. Mais nani raille pas travailla. Dian moussou me révaraille une pao. Assoqué ma mot pourri en fa. Des mots matinés les varaillent pas.
Nous sommes rentrés sans dire un mot, décidés que c'était fini. Laissant outil immérabo, je ne fabriquerai plus de fusils.
Je ne fabriquerai plus de fusils. Mes mains cultiveront le jardin. J'aurai même quelques animaux. Mon bleu habillera un pantin pour effrayer les étourneaux. Pour effrayer les étourneaux. Des mots matis mais les varaille pas. Mais nani raille pas travailla.
Yan moussou me révara une pao. Asoke mamo poudri en fa. Asoke mamo poudri en fa. S'il faut arrêter les machines pour faire entendre notre voix, alors on bloquera l'usine et on réclamera nos droits. Et si une fumée noire et dense inonde à nouveau la vallée, plus de patrons, plus de cadence, l'usine sera aux ouvriers, l'usine sera aux ouvriers. Les mots matimés, les barailles pas, mais nani raille pas, travailla, bien moussou me révara une pao, à stocker ma mot poudri en fa.
Voilà, c'était un extrait des Mécanos que vous allez pouvoir retrouver ce soir, place de la Fraternité, en concert à Saint-Jean-en-Royans, en concert gratuit à 21h. Et puis, deuxième concert qui vous est proposé ce mercredi 6 août, cette fois-ci, c'est à Vassieux-en-Vercors à 20h30. C'est à la librairie Cave à Vin des Espelines. Il s'agit du concert donc de Boomerang, qui est un duo vocal. C'est tout public, l'entrée est à 12€ par personne et 8€ pour les moins de 12 ans. Et donc Boomerang, ce sont deux voix, deux chanteuses, un univers à part entière. Un univers vocal donc qui dessine des allers-retours entre les chants traditionnels et actuels. Il y a des propositions originales donc qui sont empreintes de leurs multiples influences musicales qui sont issues donc de la pop, de la chanson française ou encore du jazz. C'est un subtil mélange des voix donc qui vous transporte dans l'émotion de cette rencontre humaine et artistique, qui sera en concert ce soir à 20h30 aux Espelines à Vassieux-en-Vercors. Voilà pour cet agenda du mercredi 6 août.
Et maintenant, partons à la découverte d'un autre site partenaire grâce à ses chroniques immersives.
Radio Royan-Vercors vous propose une visite au Jardin des Fontaines Pétrifiantes à la Saône. Détenteur du label Jardin Remarquable, parcours dans cet écrin de nature entre composition et curiosité florale et cascade. Une visite en compagnie de Magali, chef jardinière. Nous sommes toujours dans le Jardin des Fontaines Pétrifiantes à la Saône. Et puis le public qui se fait plaisir à observer ces nombreuses floraisons hein, qui changent au fil des années. Et bien, je suis toujours en compagnie aussi de Magali qui va opérer pour un solo de batterie. Magali, c'est pas courant, mais ça va être le cas, n'est-ce pas?
Oui, bienvenue au Jardin des Fontaines Pétrifiantes. Et cette année, l'entrée du jardin est agrémentée effectivement d'une batterie. Mais personnellement, je ne joue pas. C'est une batterie qui a été réalisée avec des troncs. De bois qu'on a essayé de rendre réaliste au milieu d'un massif planté de fleurs avec beaucoup de bleu, parce que je voulais évoquer la note bleue autour de cette batterie. Voilà. Et elle est constituée de rondins qui viennent de notre saule pleureur qu'on a dû couper cet hiver parce qu'hélas il a été parasité par un champignon et ça a été assez fulgurant cette attaque, donc on a dû s'en débarrasser. Et on a voulu lui donner une seconde vie, le garder encore un peu au jardin avec nous. Et voilà, sous forme d'une batterie.
C'est parfait, une batterie très réaliste, hein, puisqu'on voit donc les tomes, les fûts, mais également les cymbales aussi, et même les charleston.
Oui, on a eu à cœur de faire quelque chose de réaliste. Alors, c'est pas évident hein, de faire de la découpe fine pour pouvoir présenter les différents éléments de la batterie. mais je pense que c'est réussi et elle est très, très photographiée.
Mmh. Ah oui, oui, ça donne beaucoup de curiosité dans ce massif floral. Elle est bien entourée, la note bleue et puis il y a également des petites teintes rouges, pourpres. Vous savez toujours bien agencer les couleurs.
Et pourtant, c'est dur, la couleur. Ah oui. La couleur dans un jardin, non, c'est pas toujours réussi. Parfois, on fait des essais un peu osés et qui ne sont pas forcément très harmonieux. Mais là, oui, là, c'était vraiment l'idée avec les ageratomes, ces fleurs avec des petits pompons bleus. Alors, en botanique, bleu, c'est souvent plutôt violet. Mais voilà, ça, c'est bleu. Et du coup, ces petits pompons bleus qui sont au sommet de tiges, comme ça, très, très aériennes, c'était vraiment pour moi comme si les notes de la batterie qui s'envolaient.
Ah oui, oui, oui. Cette batterie avec des notes très colorées, hein, qui diffusent bien. D'autres massifs emblématiques, nous allons voir cela de plus près. On va laisser donc ce beau massif floral et la batterie installée. Et nous allons poursuivre notre balade dans ce jardin de fontaine pétrifiante. Ah, c'est par ici, je vous suis, Marie-Lise. Allez, allons-y.
Nous avons quitté la batterie et nous arrivons devant notre jardin de sorcières avec des indices. Les sorcières sont passées par là parce qu'on découvre leur balai. On voit les balais de sorcières qui sont là dans ce jardin, qui attendent leur propriétaire. Et au pied de ces balais, des plantes un peu particulières. On a voulu cette année travailler sur les solanacées, c'est-à-dire tout ce qui est tomates, pommes de terre. Donc il y a des solanacées comestibles qu'on connaît, et puis il y a des solanacées qui sont toxiques, voire mortelles. Donc on a voulu faire un lien entre toutes ces plantes. On a là devant nous une solanacée. Celle-ci est vraiment impressionnante, hein. On voit les épines sur les feuilles, des épines oranges qui sortent des feuilles avec des fleurs, comme des fleurs d'aubergine, de tomate. Il va y avoir une formation de fruits qui va ressembler à une petite tomate poire. Et là, il ne faut pas consommer ce fruit, hein, parce que cette plante est toxique. Alors qu'à côté, on va voir un plant de tomate classique. Les fruits vont absolument ressembler à la précédente, mais là, ils vont être comestibles. Donc il faut bien faire attention au jardin quand on a des nouvelles variétés, des plantes de collection. Ils ne sont pas forcément des plantes de potager. Et il ne faut pas consommer tous les fruits qu'on peut trouver sur les plantes du jardin.
Comment se compose ce type de massif ?
Eh bien là, du coup, on a différentes solanacées avec un feuillage très impressionnant, des grandes épines dessus ou sur les tiges. Et si on avance, on va voir un plant de tomates classiques. On voit les grappes de tomates, les fleurs. Certaines sont mûres, on va pouvoir les ramasser. Puis si on avance encore un petit peu, une autre solanacée que vous connaissez peut-être qui s'appelle la belladone. La belladone, alors là, c'est une plante toxique. Le fruit ressemble aussi à une petite tomate cerise. Il va devenir très foncé, presque pourpre, noir, comme une cerise bien mûre. Et là, il ne faut surtout pas consommer ce fruit, parce que là, il est mortel. Ah. C'est pas juste qu'on va avoir une petite indigestion, mais là, on pourrait vraiment, si on en consomme plusieurs, avoir une intoxication sévère. Donc la belladone dans le jardin, nous ne laissons pas venir les fruits. Nous allons couper, au moment où la fleur se transforme en fruit, on va couper pour que personne ne soit tenté à consommer ce fruit de solanacée mortel.
À suivre cette visite au jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Merci à Magali, chef jardinière, pour son guidage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet Visite Nature Vercors.
Nous clôturons ainsi ce magazine estival, votre magazine de l'été en Royan-Vercors et dans le sud Grésivaudan. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le magazine estival sur notre antenne à 9h, à midi et à 18h, du lundi au vendredi sur 93 FM et sur radioroyan.fr. Belle journée à vous sur les ondes de Radio Royan Vercors. Ce magazine estival est produit en partenariat avec le Musée de l'eau à Pont-en-Royans,
le Grand Séchoir, maison du Pays Lannois à Vinay,
la maison-musée de Rochechinard,
le mémorial de la Résistance à Vassieux-en-Vercors,
le musée de la Préhistoire du Vercors et le musée de la Résistance à Vassieux,
le jardin des fontaines pétrifiantes à La Saône,
la grotte de Thaïs et le bateau à roues à Saint-Nazaire-en-Royans,
la grotte de Chouranges,
le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye,
le festival des chapelles en Royans-Vercors
et l'office de tourisme Vercordrome.